17h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien Coquelrouem, bonjour à toutes et à tous.
À la une, l'Iran promet de riposter après cette attaque nocturne massive israélienne.
L'aviation de l'État hébreu a frappé des cibles nucléaires et militaires sur le sol iranien, attaque qui a visé des cibles militaires et nucléaires. Le chef de l'État-major ainsi que le numéro 1 des gardiens de la Révolution ont été tués, mais aussi des scientifiques du site de Natanz où se trouve une usine d'enrichissement d'uranium. Au moins 50 personnes ont été blessées dans le pays. Nous font le point sur cette nuit sous les bombes avec Anastasia Becchio.
Des centaines d'interpellations au Caire avant la marche mondiale vers Gaza.
Des marcheurs du monde entier affluent dans la capitale égyptienne pour une marche symbolique d'une cinquantaine de kilomètres jusqu'à l'enclave palestinienne. Marche déjà entravée, la police égyptienne procède à des interpellations d'ampleur. En Inde, Narendra Modi est arrivé à l'aéroport d'Ahmedabad où 265 personnes sont mortes hier lors du crash d'un avion de la compagnie Air India. Un seul survivant après ce crash, un indo-britannique véritable miraculé. Et puis enfin, Yameh, prêt à tout casser, le rappeur franco-camerounais sort son premier album, un timbre et un phrasé à part, à découvrir avec Ebem, extrait en fin de journal.
Israël frappe le cœur du programme nucléaire iranien.
Des frappes sur Téhéran, mais aussi au nord-ouest du pays et sur Natanz, au sud de la capitale, où se trouve une usine d'enrichissement d'uranium. Frappes qui ont touché les scientifiques qui travaillent sur le site. La télévision d'État iranienne fait état d'un premier bilan d'au moins 50 blessés dans le pays. L'Iran réagit et dit avoir le droit légitime de répondre à l'attaque israélienne. Attaque nocturne sur laquelle nous revenons avec Anastasia Becchio du service international de RFI. Bonjour Anastasia.
Bonjour.
L'armée de l'État hébreu dit avoir achevé la première phase de ses frappes. Une opération qui durera autant de jours que nécessaire, annonce Benjamin Netanyahou.
Oui, le premier ministre israélien affirme que ses premiers bombardements ont touché des commandants de haut rang iraniens sans préciser leur identité. Deux décès ont été confirmés par les médias iraniens, celui du numéro 1 des gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d'état-major des forces armées iraniennes Mohammad Bagheri. Deux scientifiques qui travaillaient sur le programme nucléaire ont aussi été tués. Selon la télévision iranienne, les bombardements à Téhéran cette nuit ont fait 5 morts et au moins 20 blessés, dont des enfants. Ces attaques ne resteront pas sans réponse et Israël doit s'attendre à une vengeance sévère et regrettable, déclare le corps des gardiens de la Révolution dans un communiqué diffusé par la télévision d'État. Parmi les cibles principales de l'opération militaire israélienne, vous l'avez dit, le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays, visé à plusieurs reprises, la télévision iranienne parle aussi de 3 sites militaires frappés dans le nord-ouest du pays. Le Times of Israel, citant un haut gradé israélien, parle de 5 vagues de frappes et de centaines de bombardements. Benjamin Netanyahou a prévenu les Israéliens qu'ils pourraient avoir à passer des périodes prolongées dans des abris anti-atomiques en prévision d'une attaque de représailles.
Merci beaucoup Anastasia Becchio, en direct de nos studios. L'Iran qui a fermé son espace aérien et tous ses aéroports. L'Irak, pays voisin, a fait de même. Espace aérien fermé aussi en Israël. Et puis le président américain Donald Trump affirme sur Fox News avoir été prévenu à l'avance de ces frappes, ajoutant que l'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire. Donald Trump qui a annoncé qu'il réunirait aujourd'hui son Conseil de sécurité nationale. Les États-Unis qui veulent par ailleurs maintenir le 6e round de négociations prévu à Oman dimanche avec Téhéran. La situation en Iran à suivre minute par minute sur notre fil en direct en une de notre site internet RFI.fr. On y revient aussi avec Frédéric Ancel qui sera votre invité, Julien, dans un peu plus d'une heure.
La marche mondiale vers Gaza doit partir du Caire ce vendredi.
Marche déjà entravée par des dizaines d'interpellations alors que des milliers de participants venus d'une cinquantaine de pays affluent en Égypte ces derniers jours. Israël a pressé les autorités égyptiennes d'interdire tout acte de provocation pro-palestinienne et d'empêcher toute tentative d'entrée à Gaza. L'Égypte, par ailleurs, où toute manifestation est interdite depuis près de 10 ans. On retrouve en direct du Caire notre correspondant Alexandre Bouchenti. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Alexandre, l'Égypte qui serre la vis, près de 200 militants arrivés au Caire et qui voulaient rejoindre Rafah ont été interpellés par la police égyptienne.
Oui, alors il y a ceux qui ont été bloqués à l'aéroport des heures durant avant d'être refoulés vers leur pays d'origine. Il y a ceux qui ont été cueillis à leur hôtel et ceux qui ont été appréhendés à la seule vue de leur képier ou du drapeau palestinien. Alors des Français, des Algériens, des Marocains, des Turcs, des Jordaniens. La législation égyptienne en fait accorde une très large marge de manœuvre aux forces de l'ordre qui peuvent arrêter et expulser en cas de simple soupçon de menace à la sécurité de l'État. Des renforts ont par ailleurs été envoyés à la frontière libyenne pour bloquer le convoi de près de 2000 personnes parties de Tunisie. Les autorités égyptiennes justifient ces mesures par le non-respect de la procédure, l'obtention d'un accord préalable des consulats et ambassades ainsi que de visas. En l'état, la marche vers Rafah est une menace à la sécurité de l'Égypte et des participants, estime le Caire.
Des justifications qui ne suffisent pas à sortir le cœur de l'embarras, Alexandre.
Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux qui reflètent l'opinion publique dans le monde arabe croulent sous les critiques faites aux autorités égyptiennes, de Facebook à Twitter, de YouTube à TikTok. Les publications accusant l'Égypte d'avoir sacrifié la cause palestinienne se multiplient. Mais il y a aussi ceux qui pensent que l'objectif de la marche de Gaza est de forcer l'Égypte à une confrontation avec Israël.
Merci Alexandre Bucenti en direct du Caire sur RFI. Et hier, l'Assemblée générale de l'ONU a appelé à prendre toutes les mesures possible pour faire pression sur Israël. Alors qu'hier, la défense civile gazaoui a recensé 29 nouveaux morts dans les opérations israéliennes, dont 21 Palestiniens tués alors qu'ils attendaient la distribution d'aide alimentaire.
En Californie, la garde nationale peut finalement rester déployée dans les rues de Los Angeles.
La cour d'appel n'a pas tardé à réagir, car plus tôt dans la soirée, un juge fédéral avait déclaré que le déploiement de la garde nationale à Los Angeles face aux manifestants était illégal. Le juge Charles Breyer, qui avait alors ordonné au président Donald Trump de rendre le contrôle de la garde nationale au gouverneur démocrate de l'État, injonction qui devait entrer en vigueur ce midi, heure locale, le ministère de la Justice américain qui avait immédiatement fait appel. Appel entendu donc, la décision du juge Breyer temporairement suspendue, mais cela ne signifie pas que le tribunal donne définitivement raison à Donald Trump, mais en l'état il garde le commandement de la garde nationale.
Retour à la une également sur cette minute d'horreur en Inde.
Il était 13h39 lorsqu'un Dreamliner 787 de l'avionneur Boeing a décollé de l'aéroport d'Ahmedabad dans l'ouest du pays hier avant de s'écraser une minute plus tard sur une zone densément peuplée. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé sur place. L'appareil de la compagnie Air India qui devait se rendre à Londres, une catastrophe qui a fait 265 morts. Une vingtaine de personnes au sol ont été tuées ainsi que 241 des 242 passagers, à l'exception de Vishwas Kumar Ramesh, un britanno-indien de 38 ans, véritable miraculé qui fait la une de la presse britannique. Emeline Vin.
Vishwas Kumar Ramesh rentrait à Londres où il vit depuis 20 ans avec son épouse et son fils. Il était assis sur le siège 11A, juste à côté d'une sortie de secours. Plusieurs heures après le crash, le quadragénaire émerge des décombres sur ses deux jambes couvertes de sang, mais sans blessure majeure apparente. Son cousin, Ajay, a pu lui parler, il raconte au micro de la BBC.
Il a dit qu'il allait bien, mais rien de plus. Il était un peu perdu. Vous savez, ce n'est pas seulement mon cousin, c'est aussi mon meilleur ami. Je suis très secoué. Parce qu'il n'y avait pas que lui, ils étaient 242 dans cet avion.
Transporté à l'hôpital, Vishwas Ramesh est conscient. Plusieurs journalistes ont pu lui parler brièvement. Mais il voyageait avec l'un de ses deux frères. Le cadet de la fratrie Nayan, qui vit au nord de l'Angleterre, évoque au micro de Sky News des sentiments très partagés.
Vishwas était très confus. Il nous a dit « Je ne vois pas mon frère, je ne vois personne. C'est le seul à avoir survécu. Bien sûr, c'est un miracle, mais je pense aussi à mon autre frère. Je suis dévasté. »
53 Britanniques avaient embarqué à bord du vol AI-171. Le Premier ministre Keir Starmer adresse ses pensées à toutes les victimes et leurs familles. Emeline Vin, Londres, RFI.
RFI 7h08 à Paris et Goma où Bintou Keïta doit rencontrer Corneille Nangaa.
La chef de la MONUSCO est en visite à Goma pour 3 jours, une première depuis la chute de la ville aux mains de la FSM-23 il y a près de 5 mois. Bintou Keïta qui doit donc s'entretenir avec les autorités du groupe rebelle soutenu par Kigali. L'actualité en adressé, Julien, c'est aussi aujourd'hui ce grand rassemblement des acteurs régionaux du secteur minier, la DRC Mining Week, qui se termine aujourd'hui à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, rassemblement marqué cette année par la forte présence américaine. Pour la première fois, l'ambassadrice des États-Unis, Sitam Lin, était présente et elle a exposé les ambitions économiques de Donald Trump sur le continent, Alexandra Branjon.
Trop longtemps, nous avons été en retrait sur le continent, a reconnu l'ambassadrice américaine devant un parterre d'investisseurs. Avant d'ajouter, nous nous concentrons désormais sur une croissance portée par l'investissement et le commerce. Les Américains veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement en minéraux nécessaires aux technologies de pointe, cobalt, coltan, lithium, et dont la plupart des gisements se trouvent dans l'est de la RDC. Pour y arriver, Lucie Tamlin a insisté sur la nécessité de rétablir la paix et appelé au retrait de toutes les forces étrangères du pays. Washington et Kinshasa négocient depuis plusieurs semaines un accord qui devrait permettre aux États-Unis d'accéder aux minéraux stratégiques de la RDC en échange d'une aide pour résoudre le conflit avec le groupe armé AFC-M23. Avec cet accord, Washington espère pouvoir prospecter dans la région. Les Américains disent avoir investi plus de 6 milliards de dollars dans le corridor de Lobito, la rénovation d'une ligne ferroviaire allant de la Zambie à l'Angola via la RDC, qui permettrait d'exporter les ressources minières de ces trois pays.
Explication signée Alexandra Branjon du service Afrique de RFI.
En Espagne, un scandale éclabousse le Premier ministre.
Pedro Sanchez fragilisé après la démission du numéro 3 de sa formation, le socialiste Santos Cerdán, contraint de quitter ses fonctions en raison d'accusations de corruption. Nous n'aurions pas dû lui faire confiance, a avoué Pedro Sanchez, qui a demandé pardon aux Espagnols, mais refuse d'envisager des élections anticipées, Daniel Valo.
C'est sur un ton grave et austère que Pedro Sanchez a reconnu son erreur. « Jusqu'à ce matin, j'étais convaincu de l'intégrité de Santos Cerdán », a déclaré le dirigeant socialiste qui avait refusé ces derniers jours de demander la démission du député, l'un des hommes les plus importants au sein du Parti Socialiste Espagnol. Un rapport de police accablant et la fuite d'enregistrements tout aussi accablants ont eu raison du soutien indéfectible apporté jusqu'à présent à Santos Cerdán, accusé dans une affaire de corruption tentaculaire qui vise également un ancien ministre de Pedro Sanchez. Le dirigeant espagnol demande pardon à ses concitoyens, mais il écarte toute idée d'élection anticipée, malgré l'ampleur d'un scandale dénoncé par la droite, mais aussi désormais par ses alliés de gauche. Pedro Sanchez doit démissionner, a martelé ce jeudi soir le dirigeant du Parti Populaire Alberto Núñez Feijóo, qui a jugé les explications du Premier ministre espagnol insuffisantes et décevantes. Dimanche, à l'appel du principal parti d'opposition espagnole, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Madrid pour réclamer le départ du dirigeant socialiste.
Et les prochaines élections générales espagnoles qui doivent se tenir en 2027.
Et puis on se quitte avec Yamé qui sort son premier album.
Après le carton de son EP Eloi, il y a 2 ans, le rappeur à la voix au perché est de retour avec Ebem, le franco-camerounais qui avec une partie de son enfance à Douala n'en finit plus de grimper. Il expose tout avec Shoot, qui a déjà tout d'un tube, mais aussi avec d'autres morceaux plus intimistes, José Marinho.
Yamé est un chanteur, auteur et compositeur franco-camerounais de 32 ans. Autodidacte, il puise son énergie brute dans les clubs parisiens où il joue la nuit. En 2023, sa chanson « Bécane » devient virale sur Internet et le propulse dans la cour des grands. Son premier album, Ebem, c'est un voyage initiatique, celui d'un artiste grandi entre deux rives, 6 ans au Cameroun, puis en France. Tiraillé entre ses doutes et ses contradictions, ce qu'il cherche, c'est surtout d'être en accord avec lui-même et ses valeurs, comme ici sur le titre Solo. Faut que je me casse d'ici. Ebem, c'est ce rare équilibre entre modernité et tradition, une voix singulière qui navigue entre chansons françaises, jazz, blues et rap, portée par les racines africaines d'un héritage paternel précieux. Un album où le passé éclaire le présent et trace la voie vers l'avenir.
Bam et bam, voilà, Yamé prêt à tout casser, tournée française, européenne, ça sera à partir du 25 octobre, moi je charge des places pour le 22 novembre à la Philharmonie de Paris, je crois que vous avez déjà les vôtres, Julien Coquelin.
Ouais, j'ai été plus rapide que vous.
On ira peut-être ensemble, vous le retrouvez en tout cas tout à l'heure pour le choix musical.
Merci Martin Guèze, 5h13 en temps universel, c'est parti pour RFI Matin. Et bienvenue à vous, nous sommes le vendredi 13 juin 2025, 3 heures d'information et à la une cette nuit de frappes israéliennes en Iran, plusieurs sites militaires et nucléaires touchés, le chef des gardiens de la révolution et le chef de l'état-major de l'armée iranienne tués, Téhéran promet ce matin de riposter et le chef de l'état-major israélien s'y prépare.
Citoyens d'Israël, je ne peux pas promettre un succès absolu. Le régime iranien tentera de nous attaquer en riposte et le bilan attendu sera différent de ce à quoi nous sommes habitués. L'armée israélienne est prête à défendre le territoire israélien et je vous demande d'être responsable pour vous-même, pour votre famille et pour vos communautés et d'écouter les instructions.
le chef de l'état-major israélien cette nuit. Quelle suite après ces frappes sur l'Iran? Quelle riposte de Téhéran? À quel point le régime et son programme nucléaire sont affaiblis après ces bombardements? On suit la situation toute la matinée dans toutes nos éditions. On appellera Sami Bourlifa, notamment à Jérusalem, à 6h, temps universel. Vous nous suivez en ligne également avec notre fil en direct sur RFI.fr. Et puis nos deux invités pour tenter d'y voir plus clair. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, dans un peu plus d'une heure, et l'ancien colonel Père de Jong à 7h15, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi la fin de la conférence des Nations Unies sur l'océan, aujourd'hui à Nice. Rideau sur 5 jours de discussion. Pour quel bilan? On fait le point avec notre grande invitée Afrique, la ministre d'État et ministre de l'Environnement et du Développement durable en République démocratique du Congo, Eve Bazaïba Massoudi, au téléphone de Christophe Boisbouvier dans une demi-heure. Et pour commencer, retour donc sur l'actualité de cette nuit, ces frappes israéliennes d'une ampleur inédite sur l'Iran, 200 avions de combat mobilisés, une centaine de cibles visées, dit l'armée israélienne à l'instant, alors qu'on sait déjà que plusieurs sites militaires et nucléaires ont été touchés, que le chef de l'état-major et celui des gardiens de la révolution ont été tués. Bonjour Loubna Anaki.
Bonjour.
En direct de New York avec nous, c'est la nuit chez vous et les États-Unis ont tout de suite réagi.
Oui, ils ont réagi par la voix du chef de la diplomatie américaine qui a tout de suite précisé qu'Israël avait, je cite, agi de façon unilatérale et que les États-Unis n'étaient pas impliqués. Marco Rubio a ajouté qu'Israël avait fait savoir que ces frappes étaient, je cite, nécessaires pour la défense de l'État hébreu. Et le secrétaire d'État a également précisé que la priorité absolue de Washington était d'assurer la sécurité des troupes américaines présentes dans la région. Soyons clairs, l'Iran ne doit pas prendre pour cible les intérêts ou le personnel des États-Unis, a mis en garde Marco Rubio, qui anticipe une probable réponse militaire de Téhéran. Une mise en garde reprise par d'autres élus républicains. Le sénateur Lindsey Graham appelle à une réponse très forte de Washington si les intérêts américains sont touchés et menace de, je cite, détruire les installations pétrolières iraniennes.
Les États-Unis disent ne pas être impliqués dans ces frappes qui n'arrivent pas vraiment au bon moment puisque les Américains sont au beau milieu de négociations avec Téhéran.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, hier après-midi, quelques heures seulement avant ces frappes israéliennes, Donald Trump avait fait savoir qu'il y avait de grandes chances que les Israéliens attaquent l'Iran. Il avait dit qu'il préférerait qu'ils n'interviennent pas car cela risquait de, je cite, faire échouer les négociations. Il faut savoir qu'effectivement, de nouvelles discussions, les sixièmes du genre, devaient justement avoir lieu ce dimanche à Oman entre Iraniens et Américains. Et le président américain avait assuré qu'un accord était proche. Il avait confié croire encore la solution diplomatique tout en insistant sur le fait que l'Iran devait renoncer à l'arme nucléaire. Ces attaques ne font pas non plus les affaires de Donald Trump d'un point de vue image. Lui qui se vantait d'être un faiseur de paix, eh bien depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il n'a pas réussi à mettre fin à la guerre à Gaza ni à la guerre en Ukraine comme il s'y était engagé. Et le fait que les Israéliens soient passés à l'attaque malgré les réticences américaines n'est pas un bon signe pour Donald Trump.
Et du côté des États-Unis, Loubna, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors, on sait que Donald Trump, justement, a convoqué son cabinet pour une réunion d'urgence ce vendredi matin. Difficile à ce stade de savoir comment ces frappes vont affecter d'un côté les relations entre le président américain et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, même si Washington, on le sait, reste l'allié infaillible de l'État hébreu. Difficile aussi, d'un autre côté, de savoir quelle sera la réaction de Washington à la riposte iranienne. On sait, en tout cas, qu'en prévision de ces frappes israéliennes et ces tensions, les Américains avaient réduit leur personnel diplomatique dans la région, notamment en Irak. Et on verra donc ce qui va être décidé lors de cette réunion de cabinet.
Loubna Anaki à New York pour RFI, merci beaucoup. Et ce matin, cette nuit pour vous, Donald Trump dit à Fox News avoir été prévenu à l'avance de ces frappes et espère toujours que les négociations vont continuer avec Téhéran.
RFI Matin.
C'est notre autre grand titre ce matin, je vous le disais, la fin aujourd'hui à Nice de la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'occasion pour nous d'aller voir les enjeux dans l'une des zones maritimes les plus sensibles au monde aujourd'hui, l'Indo-Pacifique et notamment la mer de Chine méridionale, zone stratégique au cœur de rivalités géopolitiques, économiques, environnementales. Derrière les tensions entre la Chine, ses voisins et les États-Unis se jouent des questions de souveraineté, de contrôle des ressources, de sécurité maritime, mais aussi aussi de préservation des océans. Alors, entre ambition de puissance, contrôle des ressources et dégradation écologique, que veut vraiment la Chine et à quel prix? Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Avec nous en direct de Pékin pour nous aider à comprendre avant tout quelles sont les ambitions de la Chine dans cette zone.
Eh bien, la Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Donc, Pékin construit des îles artificielles sur des récifs contestés, avec des pistes d'aviation, des bases militaires, pour affirmer sa souveraineté face aux voisins et surtout face aux États-Unis. Mais l'enjeu, il est aussi économique. Hydrocarbures, poissons, routes maritimes stratégiques. Pékin veut sécuriser tout cela pour garantir croissance et autonomie. Et enfin, cette stratégie s'inscrit dans une logique de puissance globale, où la Chine cherche à reprendre ce qu'elle considère comme sa place au centre du jeu mondial.
Quels sont les impacts globaux ?
Eh bien, tout d'abord, ces ambitions chinoises fragilisent le droit international. Pékin refuse de reconnaître la décision d'un tribunal qui invalide ses revendications maritimes. Et cela envoie un signal dangereux. Les puissances peuvent ignorer les règles. La militarisation de la zone accroît aussi les tensions sécuritaires, avec un risque d'incident armé qui n'est jamais très loin. Et enfin, sur le plan économique, un tiers du commerce maritime mondial transite par là. Un conflit perturberait immédiatement les chaînes d'approvisionnement.
Et ces tensions entravent la coopération régionale pour protéger l'océan, alors que la biodiversité est déjà menacée par la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique.
C'est cela. La construction d'îles artificielles a provoqué la destruction massive de récifs coralliens et qui sont essentiels à la biodiversité marine. La surpêche, souvent pratiquée par des flottes chinoises escortées par les gardes-côtes, eh bien, affaiblit les stocks halieutiques, mettant en péril les ressources pour les générations futures. Et dans ce climat de tension, eh bien, la coopération régionale est presque impossible. Or, sans coordination entre États, il devient très difficile de protéger efficacement cet écosystème marin qui est déjà fragilisé par le réchauffement climatique. Résultat, une zone stratégique qui pourrait devenir un exemple de gestion durable des océans est aujourd'hui un point chaud de dégradation environnementale.
Alors Cléa, il y a malgré tout du positif ?
Alors peut-être, c'est-à-dire que certaines bases accueillent des stations météo et des capteurs marins. Ce sont des outils utiles pour la recherche scientifique ou bien la prévention des catastrophes. Et la Chine parle aussi de croissance bleue, de pêche durable, d'énergie marine. Et c'est vrai que si elle ouvrait vraiment un dialogue régional sur la protection des ressources, elle pourrait techniquement devenir un acteur clé de la gouvernance océanique. Mais pour cela, il faudrait d'abord dépasser la logique de contrôle et privilégier la coopération.
Cléa Broadhurst à Pékin, merci beaucoup. Et nous, on continue juste à côté dans l'océan Indien pour évoquer l'un des grands enjeux géostratégiques dans les mers aujourd'hui, celui des routes maritimes. Car c'est dans l'océan Indien que passe l'une des routes commerciales les plus importantes du commerce mondial, qui relie notamment les producteurs de pétrole du Moyen-Orient au marché en Asie, en Europe et au-delà. 25% du commerce mondial circule dans cet espace gigantesque de plus de 70 millions de kilomètres carrés. Une zone forcément étroitement surveillée, notamment depuis l'île française de La Réunion. Notre envoyé spécial Anne Verdaguet nous emmène au CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la région sud-océan Indien. Reportage.
Sur les écrans radars, une vaste étendue de mer à surveiller, celle des zones économiques exclusives de la France dans le sud de l'océan Indien, soit 5,6 millions de kilomètres carrés. À la passerelle, le centre opérationnel du CROSS Réunion, les équipes sont sur le pont 24 heures sur 24 pour tenter d'identifier les éventuelles avaries en mer.
Là, notre rôle, ça va vraiment être de détecter des situations à risque qui concernent le trafic en général et plus spécifiquement le trafic commercial.
Alice Gaillard, la directrice adjointe du CROSS Sud-Océan Indien.
Détecter pour éviter des scénarios d'échouement, de collision entre deux navires, les pollutions, essayer de les détecter et d'identifier les navires responsables et de pouvoir les poursuivre. Détecter des navires qui seraient stoppés, qui ralentiraient ou qui auraient des routes erratiques. Donc l'idée c'est d'interroger les navires, essayer de prendre contact avec eux par tout moyen pour savoir ce qui se passe à bord.
Chaque année, 20 000 navires passent par l'océan Indien, un trafic qui s'est accru ces dernières années.
Il faut savoir que le trafic s'intensifie depuis la crise des attaques de Houthis au Yémen. Donc en fait, aujourd'hui, les plus gros porte-conteneurs ne passent plus par le canal de Suez. Tous les équilibres géostratégiques impactent les routes maritimes. Du coup, on a un report du trafic sur la route qui passe par le Cap de Bonne-Espérance avec une augmentation significative, environ 20 à 30% d'augmentation sur cette route-là. Donc ça veut dire plus de travail de surveillance et de vigilance de la part du CROSS.
Sur l'île Maurice, l'association des États riverains de l'océan Indien travaille sur la coopération entre les différents acteurs de la zone pour renforcer la surveillance des navires et protéger la biodiversité. Méline Tarrer, experte technique internationale au sein de l'IORA.
Les Outre-mer français constituent la plus grande zone économique exclusive de la France, constituent plus de 90% de la biodiversité marine de la France. Et en termes de contestation, malheureusement, dans l'océan Indien, c'est constant. Étant donné qu'il y a autant d'États et autant d'îles, les limites des zones économiques exclusives, même si c'est fixé par le droit international de la mer, mais là, il y a toujours cette question de qui a la capacité d'intervenir. Mais dans le fond, cette population, c'est une population qui est liée historiquement, culturellement. Donc c'est une population qui veut du vivre ensemble et qui veut pouvoir évoluer sur le long terme dans un environnement sain.
En plus du trafic maritime, l'Indian-Océanie est l'un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale et la troisième région du monde la plus à risque face aux effets du dérèglement climatique.
Notre reportage France à retrouver sur notre site RFI.fr et notre application Pure Radio. Et bientôt 5h30 en temps universel avant le journal, un peu de musique, toujours dans le thème des océans, une ambiance peut-être un peu plus légère et balnéaire. Nous sommes au Brésil avec Joao Selva et son titre Banho de Mar.
Se você amigo está estressado, se você se sente bem carregado, se você também anda perturbado, deixa de agonia, vejo o outro lado. Tome um banho de mar, arreia sua lombra, é hora de lutar. Tome um banho de mar, simbora reage, já chega de esperar. Tome um banho de mar, a onda já bateu, hora de celebrar. Tome um banho de mar, manhã te espera pra te balançar. Não tem mais sono pesado, sentindo sempre que tem algo errado. Mude de caminho, pegue um atalho, antes de ficar todo esculhambado. Tome um banho de mar, arreia sua lombra, bota pra gerar. Tome um banho de mar, a vida não espera, bora melhorar. Tome um banho de mar, a onda já bateu, não dá mais pra parar. Tome um banho de mar, manhã já tá pronta pra te acalantar. Salgado, espanta todo qualquer.
Le bain de mer de Joao Selva, Banho de Mar, le chanteur du Brésil dans notre sélection du mois que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Et le journal dans une minute. A tout de suite.
Priorité santé.
Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Comme chaque vendredi, une émission de santé au féminin. Comment lutter contre la sédentarité? Quelle activité physique choisir selon sa condition physique?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Du 13 au 22 juin, la Maison des Cultures du Monde célèbre le Festival de l'Imaginaire pour une dernière édition. Au programme, chants rituels de Syrie, flamenco d'Andalousie, maître des musiques et des danses coréennes ou théâtre d'ombre du Brésil. Rendez-vous au Théâtre de l'Alliance Française et dans les lieux partenaires pour cette dernière édition du mémorable Festival de l'Imaginaire avec des artistes venus du monde entier. Plus d'informations sur festivaldelimaginaire.com en partenariat avec France Média Monde.